Donc depuis 4 ans, tu es dans les rues de Lorient ?
De France, dans les rues de France. Ouais. Moi, j'étais à Paris, j'étais à Nantes, j'ai fait la Manche à Nice, j'étais partout. Là, avant d'être à Lorient, j'étais sur en Saône-et-Loire. Donc j'ai fait toute la France quasiment, j'ai fait une bonne partie de la France.
Comment tu voyages ?
Bah malheureusement je suis obligé de prendre le train en fraude. Et encore aujourd'hui je suis obligé de limiter mes déplacements parce que arriver à un certain nombre d'amendes, après c'est la prison. J'ai un casier judiciaire, donc j'ai pas envie de retourner en prison au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de m'en sortir.
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive! À la dérive!
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de son et d'envie d'ailleurs. Ils sont 3000, 5000, voire beaucoup plus encore. Ils sont souvent assis devant vos gares, votre bureau de poste, votre magasin d'alimentation, le cinéma. On passe devant eux et on ne sait pas quoi leur dire. On hésite à leur donner de l'argent car on se doute bien que cela sera dépensé en l'achat de mauvais vin. Vous l'avez compris, nous parlerons des SDF, des clochards, de ceux qui font les premiers titres des journaux lors des premiers grands froids et de leurs premiers morts couchés dans la rue. Or, la réalité est, comme à son habitude, plus complexe. Les SDF meurent régulièrement autant en hiver qu'en été. L'argent gagné en faisant la manche est dépensé dans de l'alcool, évidemment, mais aussi pour se payer un café sur une belle terrasse, dormir à l'hôtel pour se reposer et se laver, se payer un billet de train pour ne pas débarquer au premier arrêt. C'est une population marginale, volatile, qui ne rentre pas dans le code, ne respecte pas nos règles de vivre ensemble. Pourquoi ils se retrouvent à la rue ? Comment vivent-ils ? Comment ressentent-ils le regard qu'on leur porte ? Et pour dormir ? Manger, trouver du boulot. C'est probablement à cause de tout cela qu'un jour, Benjamin et David m'ont interpellé dans la rue à Lorient en cette fin d'été. J'étais avec mon micro pour un autre sujet. Sans doute m'ont-ils pris pour un journaliste. J'ai accepté leur invitation et les ai rejoints là, assis sur les pavés du port, de la rue du port. Je ne savais pas grand-chose à leur sujet et je les ai prévenus que mes questions seraient directes, sans détour. Ils m'ont répondu que tant mieux, car ils avaient leur vérité à faire entendre. Depuis, j'ai beaucoup lu, et notamment les ouvrages suivants, Les Naufragés et Le sang nouveau est arrivé de Patrick Declercq, un psychiatre qui a passé de nombreuses années à proposer des consultations pour les SDF qui échouaient à Nanterre, près de Paris. Je vous propose donc d'écouter d'abord un extrait du spectacle tiré du livre de Patrick Declercq, et ensuite, la parole sera donnée à Benjamin et David, nos deux SDF lorientais.
C'est de l'odeur dont je me souviendrai le plus longtemps. Une odeur âcre, écœurante, qui vous prend la gorge et imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambes. De pieds ulcéreux et purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. J'ai passé un peu plus de 15 ans de ma vie à m'intéresser aux clochards de Paris. Je les ai suivis dans la rue, dans les centres d'hébergement, à l'hôpital. J'ai aidé à les soigner. Je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. La plupart du temps, je les ai haïs. Et plus la crasse et le mauvais vin, plus la haine, la rancœur, l'envie. Ils violent leurs femmes, les prostituent pour des comprimés, de l'alcool ou des cigarettes. Mais il n'y a pas eu que la haine. C'est pour ça que je suis resté si longtemps à les regarder et à les écouter. Et c'est pour ça que maintenant que je les ai quittés, Il y a des soirs où il me manque un peu. Les souvenirs se bousculent. Les morts et les vivants. Les morts vivants. Tous ceux que j'ai croisés, le temps d'un mot, d'un pansement, d'un repas chaud. Pour tous ces êtres fracassés, sans histoire, sans trace, sans parole, je voudrais ériger une sorte de monument, un mémorial qui leur ressemble un peu. Un peu de travers. Quelques pierres, pas plus. Presque ruines.
Le ton est donné avec cet extrait du texte magnifique de Patrick de Clercq, tiré de son livre Les Naufragés. Vous allez entendre maintenant les mots de David et Benjamin. Ils vous parleront de leur galère et de leur envie de s'en sortir.
Bonjour, moi je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans, je sors de la rue depuis un mois et demi, donc j'ai oublié de faire l'aumône parce que malheureusement c'est pas facile de trouver un travail en sortant de la rue pour que ce soit les papiers d'identité, tout le reste. Puis faut vivre comme ça parce que j'ai pas le choix quoi. Mais c'est pas facile tous les jours parce que du coup beaucoup de gens n'ont pas de monnaie avec les problèmes de carte bleue et tout ça. Mais bon, on fait avec. J'arrive à vivre malheureusement depuis un mois et demi comme ça, même depuis un an, mais on fait avec. Auparavant, j'étais en boucherie en région parisienne et puis j'ai dû quitter la ville pour plusieurs problèmes et puis je me suis retrouvé en Bretagne.
Quels sont les problèmes qui ont provoqué le fait que tu sois maintenant à la rue?
Ce qui a provoqué, c'est des amis qui m'ont pris pour un con, je me suis fait prendre pour un con par pas mal de monde et puis ma famille qui était pas trop derrière moi pour m'aider. Donc du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis... J'en mets mon coup et je suis parti à la rue, dans ma tente. Et puis petit à petit, c'est compliqué pour avoir un appartement, pour avoir plein de choses. Surtout les papiers. Et en France, quand on est français surtout, malheureusement, ça prend du temps.
Quand tu parles des papiers, tu parles de quoi?
Que ce soit les papiers pour avoir un logement, pour faire des demandes de logement, pour des aides pour remplir des papiers. Je ne suis pas raciste, mais beaucoup d'étrangers qui viennent en France, qui ont beaucoup de papiers remplis par des Français comme nous quoi, et ils ont accès à tout quoi, même moi qui suis à la rue, j'ai pas accès au
RSA.
Le RSA j'ai accès, mais j'ai pas accès
aux aides sociales,
que ce soit les courses pour faire des courses
les
épiceries solidaires, j'ai pas le droit aux épiceries solidaires, il y a plein de choses que j'ai pas le droit quoi.
Et pourquoi t'as pas le droit à l'épicerie solidaire?
Parce que je gagne de trop, c'est le RSA.
Ah d'accord.
C'est ça le problème. Ou alors je gagne un petit peu trop, c'est parce que je suis pas étranger ou je sais pas. Parce que beaucoup, comme la France donne beaucoup aux étrangers, il faut dire ce qui est vrai. Et je suis loin d'être raciste, mais c'est vrai. Et puis du coup, c'est embêtant.
D'accord. À côté de toi, il y a quelqu'un d'un peu plus âgé.
Donc David, j'ai 37 ans, j'ai 4 ans de rue. Moi je suis venu à Lorient par rapport à une amie, une fréquentation avec une femme avec qui je sortais, qui m'a mis dehors du jour au lendemain. Et donc du coup maintenant c'est la galère pour rebondir quoi. Et moi ça fait 10 ans que j'ai 10 ans derrière moi de restauration, et malgré mon métier, mes diplômes, à partir du moment où vous êtes dans la rue, on vous dénigre et puis vous êtes mal vu quoi. C'est tout de suite, on vous colle tout de suite une étiquette sur le dos, vous êtes alcoolique, vous ne savez pas vous en sortir, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé. Alors que des gens comme nous sont certainement plus motivés à travailler que d'autres personnes qui ont un appartement ou qui ont une situation un peu meilleure que la nôtre. Moi encore ce matin, on m'a encore proposé du boulot alors que je suis à la rue. Parce que la personne, elle voit que j'ai le sourire, que j'ai envie, je suis positif, alors qu'il y a des gens qui ont un appartement et toute la journée, on va les voir dans la rue, ils vont tirer la tronche, vous leur demandez une pièce, c'est comme si vous leur arrachiez le cœur. Alors que c'est pas, on doit, au jour d'aujourd'hui, on devrait être solidaire. Nos grands-parents, ils ont vécu comme ça. Nos grands-parents, ils ont vécu avec la solidarité, alors qu'on est en 2019 et maintenant, la solidarité, elle n'existe plus.
Mais depuis 4 ans, t'es à la rue, mais parfois tu travailles ou bien t'es vraiment...
Non, pas pour faute de travail, pour faute de trouver des logements, parce que manque de garantie, parce que tout de suite, quand vous êtes à la rue, moi personnellement, j'ai plus que mon père, donc j'ai pas de garant, j'ai pas les 1% logement comme certains arrivent à obtenir, parce que ma situation plaît pas. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai beau déposer des demandes d'appart, j'ai fait ma demande d'appart HLM, j'ai fait ma demande à sauvegarde 56, et 6 mois d'attente, 8 mois d'attente, alors que malheureusement, moi j'en ai vu qui étaient de nationalité sénégalaise ou malienne ou quoi que ce soit, ils sont arrivés à la sauvegarde 56 et une semaine après, ils avaient un appartement. Donc expliquez-moi pourquoi. Moi, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne un peu le gouvernement français parce que à 37 ans, j'ai encore du mal à comprendre qu'en étant français, on soit à la rue, alors qu'en étant étranger, on trouve des solutions.
Aïe, on aborde une question sensible qui est « Donne-t-on plus aux étrangers qu'à nos compatriotes en matière d'aide sociale et de logement ?» Alors, ce principe d'altruisme déséquilibré que dénoncent Benjamin et David est souvent récupéré par l'extrême droite française au motif que la France accueillerait toute la misère du monde avant de s'occuper de ses propres pauvres. Alors, il me fallait vérifier en partie cela et j'ai donc pris rendez-vous ce matin avec Madame Guillard. Françoise Guillard est directrice... Alors, je tourne la page. Françoise Guillard est donc directrice du dispositif Habitat Insertion Santé de la sauvegarde 56 et j'espère pourra répondre à cette question polémique d'une préférence pour les étrangers et nous détailler aussi du dispositif d'aide au logement mis en place dans l'Aglo de l'Orient pour les personnes sans abri. On va aller voir, ça se trouve au 33 cours de Chazelle, c'est parti. Françoise Guillard, vous êtes directrice du dispositif Habitat Insertion Santé de la sauvegarde 56. Alors que vous inspirent les propos de Benjamin et David sur la question de la préférence accordée aux étrangers lorsque les logements sont accordés?
C'est quelque chose qu'on entend très souvent, effectivement. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de place, ça acerbe effectivement, je dirais, cette vue un peu... décalé de la réalité. En réalité, il y a deux dispositifs qui existent. Il y a un dispositif qui... Alors, on appelle ça des dispositifs dédiés, hein, qui vont accueillir les demandeurs d'asile, soit en urgence, soit pour un autre parcours. Ça s'est beaucoup développé, effectivement, depuis 4-5 ans. Et en même temps, et sans exclure les SDF, je dirais, plus locaux, il y a le dispositif que moi, je propose, qui, effectivement, va répondre aux personnes qui ne sont pas en demande d'asile. Donc, je dirais que le traitement, aujourd'hui, il est équitable, mais il ne défavorise pas les personnes du local.
Quand on parle de logement, on parle aussi d'accompagnement. Comment ça se passe, hein?
Alors, c'est vrai qu'on pense souvent à logement, mise à l'abri. Et en même temps, de notre expérience, on sait que les personnes en grande difficulté que nous accueillons nécessitent un accompagnement social et un accompagnement social à long terme. Puisqu'effectivement, ils cumulent. Hein, leur particularité, c'est qu'ils cumulent des problématiques de ressources, des problématiques d'accès aux droits, des problématiques de santé, des problématiques de parentalité, des problématiques de gestion de leur budget. Donc, effectivement, le parcours, quand il y a eu un parcours d'errance de plusieurs années, il faut du temps pour se reconstruire. La rue abîme psychologiquement, ou alors on est déjà en difficulté avant d'être à la rue. Mais globalement, il faut beaucoup d'accompagnement et de l'accompagnement aux soins aussi.
Et l'accompagnement dont on parle, il est donné aussi à ceux qui sont logés de façon urgente?
Oui, tout à fait. Alors, de façon moindre, hein, puisque, effectivement, on est là plutôt sur une mise à l'abri, mais il reste en contact avec le service intégré de l'accueil et de l'orientation pour, effectivement, travailler une orientation sur les autres dispositifs qu'on appelle dispositifs d'insertion. Notre difficulté aujourd'hui, c'est que les places aujourd'hui ne sont pas, bien que développées énormément depuis les dernières années, sont encore aujourd'hui pas suffisantes. Donc, le délai est peut-être assez long pour pour accéder à un hébergement. Et c'est vrai que là, les hommes seuls sont un petit peu défavorisés. La période d'attente peut être longue, elle peut aller jusqu'à 6 mois.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Ben,
si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restaurez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout.
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Un site de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie à vendre.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
Expliquez-nous pourquoi, enfin le rôle pardon, de la sauvegarde 56 aujourd'hui.
Oui, bonjour. Alors, la sauvegarde 56 gère différents dispositifs pour répondre aux personnes sans logement ou sans hébergement. À la fois, donc, le service intégré de l'accueil et de l'orientation, qui est le SAS d'évaluation et d'entrée dans différents dispositifs. Et puis après, des dispositifs d'hébergement et de logement temporaire.
Françoise Guillard, directrice du dispositif Habitat, Insertion et Santé de la sauvegarde 56. Et quel est le rôle à l'égard des SDF, des personnes sans-abri?
Alors, il y a des réponses différenciées. Donc, pour une personne SDF, soit elle a un problème d'hébergement en urgence, et effectivement, elle va être accueillie pour une mise à l'abri et une réorientation vers les autres dispositifs, qui sont des dispositifs d'insertion, centre d'hébergement ou logement temporaire, où les personnes sont hébergées, et j'insisterai sur le fait qu'ils sont aussi accompagnés pour, effectivement, au bout de quelques mois, retrouver leur autonomie dans un logement personnel.
Alors là, je pense à David et Benjamin, que j'ai interviewé dans la rue. Comment ils peuvent saisir la sauvegarde pour demander un logement?
Alors, pour demander un hébergement, un logement, bah, la porte d'entrée, c'est le service intégré de l'accueil et de l'orientation, hein, qui, effectivement, peut recevoir les personnes à Lorient. Et puis, en urgence, eh bien, il y a toujours le 115. Le 115 est intégré au service intégré de l'accueil et de l'orientation. Donc, c'est un appel gratuit.
Et à Lorient, ou dans l'agglo de Lorient, quelles sont les structures d'accueil et leurs conditions d'accès ?
Alors, donc, à Lorient, il y a un accueil de nuit hein, qui est situé donc sur l'agglomération. L'appel, eh ben, c'est le 115 pour, je dirais, réserver un accueil. L'accueil, il est en bungalow aujourd'hui. Les chambres sont individuelles et il y a un repas proposé le soir et un petit déjeuner le matin. Il faut se présenter à partir de 18h le soir et effectivement ce centre d'hébergement ferme le matin, sachant que relais est pris par l'accueil du jour du CCAS à ce moment-là dans la journée. Ça, c'est pour l'accueil d'urgence. Et puis, pour les dispositifs d'insertion, il y a deux centres d'hébergement. Un centre d'hébergement plutôt dédié aux femmes, aux familles, et notamment aux femmes victimes de violences conjugales. Et un autre centre d'hébergement qui accueille en appartement les hommes seuls.
Quand vous parlez d'accueil d'urgence, c'est pour une nuit, pour plusieurs nuits, comment ça se passe ?
Alors, on va commencer par plusieurs nuits. Alors, aujourd'hui, on est sur 7 nuits d'hébergement. Voilà, l'hypothèse étant que sur 7 nuits, les personnes peuvent se poser. Et puis, démarrer avec le SIAO, donc le service intégré de l'accueil et de l'orientation, un parcours d'insertion.
Et il y a combien de places à peu près pour accueillir ce genre de personnes ?
Alors, il y a sur ce dispositif-là 12 places. Voilà, d'hébergement hommes, femmes, seuls. Il y a d'autres, en urgence, j'ai oublié de vous citer d'autres choses. Il y a systématiquement pour les femmes victimes de violences conjugales un hébergement à l'hôtel, si besoin, ou sur nos structures, mais on a rarement de la place en urgence. Et puis pour les familles, il peut y avoir, avec accord de la direction de la cohésion sociale, un hébergement à l'hôtel aussi. On met presque systématiquement les familles avec enfants à l'abri.
Quand la période de grand froid arrive, même d'humidité, est-ce que le nombre de places, donc on a dit 12, hein, pour les conditions de, enfin pour les logements d'urgence, est suffisant pour le Pays de Lorient ?
Alors, en termes de... c'est jamais complètement suffisant. Il peut y avoir des nuits où il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Il faut savoir que nos taux de réponse est à 80% sur ce dispositif.
À micro la dérive, Benjamin et David, vivre dans la rue en 2020, épisode 1.
J'ai trouvé les solutions.
Donc, depuis 4 ans, tu es dans les rues de Lorient ?
De France. Dans les rues de France. Ouais. Moi, j'étais à Paris, j'étais à Nantes, j'ai fait la Manche à Nice, j'étais partout. Voilà, avant d'être à Lorient, j'étais en Saône-et-Loire. Donc j'ai fait toute la France quasiment. J'ai fait une bonne partie de la France.
Comment tu voyages ?
Bah, malheureusement, je suis obligé de prendre le train en fraude. Le train en fraude, et encore aujourd'hui, bah, je suis obligé de limiter mes déplacements. Parce que bon, arrivé à un certain nombre d'amendes, bah, après c'est la prison. J'ai pas, moi j'ai un casier judiciaire, donc j'ai pas envie de retourner en prison au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de m'en sortir. Et donc donc j'ai décidé de rester à Lorient quoi, pour éviter de reprendre des amendes et d'être encore une fois répertorié comme SDF égale cas sociaux, amende, alcool et drogue et compagnie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est catalogué, hein, SDF. À partir du moment où on vous voit dans la rue en train de faire la manche, tout de suite, vous êtes drogué, vous êtes un bon à rien, vous allez dégrader la rue, voilà. Vous êtes le petit canard noir de la portée, quoi, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et on aimerait bien être vu autrement, parce qu'on est des êtres humains comme les autres. C'est pas parce qu'on fait la manche qu'on on a un cœur, on sait... voilà. Encore nous, entre nous, SDF, on est plus solidaires que les gens qui nous regardent dans la rue.
Et comment ça, solidaire ?
Bah, on s'entraide. La preuve, le jeune homme qui est maintenant qui a un appartement,
Benjamin.
Voilà, au jour d'aujourd'hui, bah, malgré qu'il n'a pas le droit de m'héberger, parce qu'il a un appartement chez 115, malgré tout, il m'héberge. Il m'héberge, moi, il me demande une petite participation, la nourriture, c'est les choses de la vie, quoi, normal. Et voilà, on s'entraide comme ça.
Pourtant, je ne connaissais pas avant, ça fait juste un mois qu'on se connaît. J'ai vu que ça avait l'air d'être une bonne personne et que je m'en sentais bien. et qui ne boit pas d'alcool et que moi non plus, donc du coup je l'héberge chez moi pour dépanner, parce que moi, on m'a toujours dit faut aux autres quand même qu'on le fasse. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Et aller demander, en tant qu'SDF, aller demander à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous pouvez m'héberger si je participe? Il va vous regarder, il va vous dire non.
Oui, mais ça, c'est le cas de tout le monde. Moi, je vais voir quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'héberger? Mais s'il ne me connaît pas, il va me refuser.
Après, en faisant connaître, après, il faut apprendre aussi à connaître la personne. Ouais. Pas forcément dire dès la première rencontre, dire bon, ce soir, je t'héberge. Mais au bout de 15 jours, quand on voit que la personne, elle est correcte. Moi, qu'il y a peut-être possibilité de sympathiser un peu, si ça peut l'aider de le faire dormir au moins une nuit au chaud, je pense que la personne elle serait contente. Même si c'est qu'une nuit, moi personnellement, ce soir, on me dit tiens, viens dormir ce soir à la maison, je t'offre un repas et le coup de prendre une douche, j'y vais, je vais me tenir à carreau, le lendemain, je serai parti. Et puis c'est tout, c'est même si le lendemain, la personne ne me refait pas dormir chez elle, au moins, j'aurais été content de dormir au moins une nuit au chaud. Et il faut qu'on soit entre SDF pour réussir à faire passer certains messages, quoi.
David, tu as travaillé dans la restauration, Benjamin dans la boucherie. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de frapper à la porte des restaurants pendant l'été, enfin avant l'été, et puis de proposer vos services, hein?
Rien du tout. Moi, j'ai déjà commencé à faire des papiers, déposer des CV, malheureusement sans réponse. Je travaillais un peu en intérim, mais ça s'est mal goupillé. Et puis du coup, comme ça fait qu'un mois et demi que j'ai mon logement, ça prend du temps à refaire toutes les démarches. Et puis je veux peut-être repartir sur une formation au mois de septembre ou octobre si j'arrive à avoir accès, parce que du coup c'est compliqué pour trouver un CDD ou un CDI.
Ouais.
C'est pas facile.
Et pourtant toi tu as un logement, donc normalement c'est quand même plus pratique, tu as une adresse.
Ouais.
Est-ce que le fait qu'on soit passé maintenant au tout numérique complique un peu vos démarches? Parce qu'il faut avoir internet, alors comment ça se passe pour vous, David?
Moi justement, le problème du numérique, c'est bien, l'homme évolue, c'est tout à fait normal. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de refaire ma carte d'identité. Les bureaux de la mairie pendant les vacances ont été fermés. Si j'avais pas eu accès à internet, je pourrais pas refaire ma carte d'identité. Parce que là, pendant les vacances, il a fallu faire une préinscription sur internet pour déposer le dossier à la mairie au mois de septembre. Alors, si j'avais pas eu un collègue comme Benjamin qui avait internet et puis qui m'a fait partager et puis que j'ai pu faire certaines démarches par internet, au jour d'aujourd'hui, ma carte d'identité ne serait pas faite. Il aura fallu que je voie que la bibliothèque elle ouvre, qu'on m'accorde un accès à internet. Et encore, les accès à internet, quand on n'est pas de la ville, ils sont payants. Donc, c'est encore une fois, ça prouve que le système est compliqué, quoi.
David, est-ce que tu perçois comme Benjamin le RSA?
Oui. Mais je le reçois, mais c'est même pas, je perçois même pas le RSA, parce qu'il y avait deux sortes de RSA, il y a le RSA socle et le RSA, on va dire entre parenthèses pour les SDF, qui est de 550, et moi je touche que 480.
Et avec 480 euros, comment tu te débrouilles chaque mois?
Quand la poste veut bien m'autoriser un retrait, parce que jour d'aujourd'hui le système est quand même très compliqué au niveau de l'administration, parce que vu que j'ai pas ma carte d'identité, que mon compte n'est pas ici, excusez-moi l'expression, mais je galère à retirer mon argent, mon propre argent. Et donc les gens, pareil, ils comprennent pas que je sois obligé de faire la manche, mais parce que c'est pas parce que je fais pas la manche par obligation, je le fais parce que la poste sont compliquées au niveau des papiers et qu'ils veulent pas me laisser retirer mon argent. Et là-dessus, la poste française, c'est les pires à ce niveau-là, parce qu'ils vous demandent jusqu'à deux pièces d'identité. Alors quand vous êtes SDF, que déjà vous avez du mal à avoir une pièce d'identité, qu'on vous en demande une deuxième, faudrait pas non plus abuser non plus, c'est compliqué. Alors la deuxième pièce, ça va être quoi? Ça va être un permis de conduire. Quand on est SDF, on peut pas se payer une carte d'identité qui coûte quand même 35 euros avec les termes fiscaux et ça. Et en plus, se payer le permis, c'est...
Est-ce que tu peux être aidé par les services sociaux, une assistante sociale qui peut t'aider dans tes démarches?
Malheureusement, vu que j'ai plus de 25 ans, malheureusement, j'ai plus droit au niveau de la mission locale. Quand j'avais moins de 25 ans, j'avais commencé à passer mon permis, le permis à 1 euro. Parce que justement, il y a beaucoup d'avantages avec le mission local qui vous aide à payer le permis. Même à la base, Pôle emploi aussi le faisait, mais tout ça, ça a changé. Donc au jour d'aujourd'hui, non, j'arrive pas à avoir une aide pour payer mon permis, j'en ai besoin.
Fin de ce premier épisode consacré au SDF. Dans la prochaine émission, on écoutera encore Benjamin et David, mais aussi Stéphanie, une femme qui a un logement, Mika choisit de faire la manche dans la rue. Gégèle, un jeune Roumain qui nous racontera comment il est arrivé sur l'Orient. Et vous pouvez nous retrouver sur radiobalise.com en cliquant un micro à la dérive. Sur ce, au revoir.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs animateurs. Vous êtes curieux ? Vous avez le sens du contact ? Vous voulez traiter des sujets de société ? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23, 06 521 585 23 ou par mail @lapostepoinet. Merci de rester sur Radio Balise.